Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'ai le plaisir et la joie d'accueillir Luc Baudin. Luc, comment vas-tu aujourd'hui ?
Je vais très bien, tout va bien. Il y a un petit rafraîchissement qui arrive après la grosse chaleur, donc on apprécie tout ce qui nous arrive et c'est que du bonheur.
Exactement, je suis d'accord avec toi. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de t'avoir à ce micro, sur ce podcast, parce qu'il y avait plein de sujets que j'avais envie qu'on aborde ensemble. Et c'est vrai que tu abordes, toi, déjà depuis tant d'années, énormément de thématiques. C'est vraiment très riche ce que tu partages, que ce soit sur ton site ou à travers tes livres, parce que tu es un écrivain aussi prolixe, un auteur vraiment qui écrit énormément. Et donc pour ça, déjà, merci. Et la première thématique que j'avais vraiment envie d'aborder avec toi, qui est une de tes thématiques phares, c'est celle de l'élévation vibratoire de la Terre. Et donc, j'ai tout un tas de questions et j'ai vraiment envie que tu nous partages sur tout ça. Mais peut-être pour des personnes qui ont entendu parler de ce terme, mais qui ont encore du mal à comprendre de quoi il s'agit, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que ce processus est arrivé depuis les années 80, 90 et peut-être aussi quel impact est-ce qu'il a sur nous?
Oui, c'est un vaste sujet déjà que tu me poses là. Oui, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est énergie, tout est vibration dans l'univers. Nous sommes formés de particules qui vibrent. Nous sommes donc notre corps vibre également et la Terre vibre, l'univers vibre à des fréquences qui sont très subtiles. Ce qui s'est passé, c'est que jusque dans les années 80, le taux vibratoire, le niveau vibratoire de la Terre était à peu près stable. Avec 6500 unités Bofi. Ce qu'il faut comprendre déjà en préambule, c'est qu'il n'y a pas d'appareil qui permette de mesurer le taux vibratoire de la Terre. Il n'est mesurable que par des outils subtils comme la radiesthésie, le test énergétique, le test musculaire, etc. Alors c'est vrai que c'est très empirique, mais le fait est que quand on est plusieurs à retrouver les mêmes valeurs au même moment, ce n'est toujours pas scientifique, mais comme je dis souvent, on s'en rapproche. Quoi qu'il en soit, il s'est passé qu'à partir des années 80, le taux vibratoire a monté discrètement sur la Terre, mais on trouvait déjà formidable. Que moi, je me rappelle, dans les années 80, 90, on était passé de 6500 à 8000 unités Bofi. On trouvait que c'était formidable. Il y avait pratiquement une augmentation de 20%. On disait que c'était génial, etc. Et puis, ça a continué de monter d'une manière régulière, doucement, mais sûrement. Et puis, ça a véritablement décollé à partir de, c'était la période, en plein période de confinement. Notre premier confinement qu'il y a eu, c'était, je me rappelle plus, c'était dans les années 2020 ou 2021, je confonds un peu toujours les dates, et là, ça a été une montée exponentielle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que tout simplement, l'univers n'est pas figé lui non plus. Tout suit une courbe ascensionnelle. C'est-à-dire que l'évolution ne se fait pas en forme de cercle comme on nous le présente souvent avec des éternels recommencements, d'une belle spirale comme tu nous la montres. Et donc là, l'univers est en train d'ascensionner, de monter son niveau de conscience également. Et donc nous sommes appelés, la Terre et les êtres humains, l'humanité dans son général, à suivre ce mouvement. C'est bien qu'il y ait des grosses quantités d'énergie subtile qui arrivent sur la Terre, et la Terre n'ayant pas les blocages psychologiques que nous pouvons avoir, elle suit ce mouvement. Nous, nous sommes appelés à le faire, mais encore faut-il que nous voulions le faire. C'est un peu comme si c'est l'essence de notre voiture. Donc, on peut mettre de l'essence dans la voiture, mais c'est pas ça qui va la faire avancer. Il faut évidemment que le moteur tourne, qu'il y ait un conducteur, etc. Et ça, donc c'est un mouvement universel qui touche la Terre et l'humanité, et cette humanité est appelée, grâce à ces énergies qui arrivent, à monter son niveau de conscience. Les personnes qui sont là sur la Terre peuvent choisir entre suivre ce mouvement ou tout simplement demeurer telles qu'elles ont été jusqu'à présent, si elles le considèrent que c'est, elles sont heureuses comme ça. Chacun est libre, et c'est ça qui est génial.
Oui, merci de partager tout ça. Et c'est vrai que chacun est libre, comme tu le disais. Cependant, j'ai l'impression que Si on décide de rester dans le statu quo, si on résiste à cet appel finalement, parce que ces circonstances-là énergétiques ont une influence sur nous, qu'on le veuille ou non, comme la pluie ou le soleil ont une influence sur nous, qu'on le veuille ou non. Et donc j'ai l'impression, et tu me diras ce que tu en penses, que lorsque l'on résiste à cet appel à la transformation qui émerge depuis nos profondeurs, eh bien c'est là où les choses peuvent peut-être se corser un petit peu et où on peut rencontrer des difficultés, peut-être davantage de tension dans sa vie, moins de fluidité. Et comment est-ce que tu vois les choses, toi, par rapport à ça?
C'est que l'être humain est fait pour vibrer au niveau vibratoire de la Terre, été, parce que là, actuellement, il est arrivé à un tel taux qu'il n'est pas possible de le suivre. Cependant, le taux vibratoire de la santé, de l'équilibre des êtres humains, était de 6500 unités bovies autrefois. Là, maintenant, il est aux alentours de 28-30 000 unités bovies. Donc, c'est a priori pour aujourd'hui, mais peut-être demain, dans 6 mois, ce sera pas forcément le même taux, vu que ça change. Et pour les personnes qui ne suivent pas ce taux, cette évolution, ça peut entraîner évidemment des troubles. Et les premiers sont très connus. C'est la fatigue, les angoisses, et serait surtout une émotivité plus importante. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'insomnie. Vous savez, on se réveille la nuit pendant 1 heure, 2 heures, on ne sait pas trop pourquoi, et après ça peut entraîner des petits vertiges, mais c'est des vertiges très fins, des petits moments où on flageole avant. Ça ne va pas nous entraîner des chutes ou des choses comme ça, des troubles aussi de mémorisation, d'attention, etc. Et si on continue de ne pas s'adapter à ce niveau, à ce changement, à ce moment-là, ça peut être un facteur qui va favoriser un certain nombre de maladies. C'est pas ça qui va déclencher les maladies, on est bien d'accord, mais ça va être on sait très bien que la plupart des maladies actuelles sont liées et sont multifactorielles, comme on dit, et donc c'est un facteur supplémentaire qui risque de favoriser ces fameuses maladies nouvelles dont on parle, comme la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, etc., etc. Sans parler, curieusement aussi, des déprimes et des phénomènes même liés au poids, au surpoids, etc. Parce qu'il semblerait que le poids, la graisse, etc., soient des facteurs aussi où on essaye de faire tampon également entre l'extérieur et l'intérieur. Et puis, ça peut être aussi des sources d'emmagasinement d'énergie également par rapport à ça.
S'alourdir aussi peut-être pour ne pas trop s'élever peut-être.
Oui, c'est-à-dire, c'est que là encore, dans les problèmes de surpoids, il n'y a pas une explication symbolique, j'entends. Il y a plusieurs explications qui vont dépendre un petit peu des personnes. Donc, il faut pas en tirer des généralités, c'est surtout ça.
Absolument. Ouais, c'est passionnant ce que tu racontes et aussi je ne peux m'empêcher de penser que le corps est sans doute est notre véhicule terrestre, tout comme la Terre est à une échelle plus grande le véhicule de l'humanité. Donc j'imagine qu'il y a une forme de syntonie comme ça entre notre corps qui provient de la terre, qui nous est prêté par la terre et la terre elle-même. Et donc j'imagine que voilà, c'est le premier à ressentir ces changements dès qu'il y en a.
Tout à fait, mais on peut aller plus loin, c'est que notre corps provient de l'univers. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de particules qui nous composent, qui viennent d'autres galaxies. Donc,
Oui.
nous sommes des êtres universels, hein. Donc, c'est au point de vue énergétique, c'est impressionnant d'ailleurs quand on y réfléchit. Et c'est vrai que on est aussi en symbiose complet avec la Terre. C'est-à-dire qu'on n'est pas, il n'y a pas l'entité Terre et l'entité humanité. C'est que deux vivent ensemble. C'est pour ça que les pensées de l'humanité, sans parler des actions bien sûr, les pensées de l'humanité peuvent influencer l'énergie. Il y avait même certains auteurs qui avaient décrit que quand il y a eu les événements du 11 septembre autrefois, ça en avait même changé, ça avait provoqué un tremblement dans le niveau vibra dans le champ gravitationnel de la Terre. Donc c'est pour voir qu'on est vraiment très très liés ensemble et nous sommes faits pour vivre de concert mais aussi avec les animaux. Les animaux, les végétaux ont aussi évolué. Et moi, j'adore regarder les animaux dits sauvages Ils ont changé de comportement aussi. Observez-les. Et même les animaux de compagnie, on voit qu'ils ont aussi ouvert beaucoup leur conscience. Il y a beaucoup plus d'échanges et les différences, les séparations qu'il y avait autrefois entre le monde animal et le monde humain, eh bien, elles deviennent de plus en plus floues. Et c'est magnifique ce qu'on est en train de connaître. Et on a découvert aussi, il suffit de voir comment s'est développée ces dernières années la communication animale. Donc c'est fabuleux. Moi j'irais encore plus loin. Il y a une communication aussi végétale et une communication minérale. Ça va sans parler des autres communications avec les entités, avec tous ces êtres qui nous accompagnent. Mais là, ça tombe un peu dans le domaine de croyance de chacun.
Et je trouve que déjà rien que cette conversation nous élève parce que forcément on focalise nos pensées, nos émotions, notre réflexion sur des thématiques plus élevées. Et donc tu parles du fait de vivre en harmonie avec la terre, avec la vie en fait, on pourrait l'appeler comme ça, sous toutes ses formes. Et du coup, comment peut-on vivre au mieux cette transformation qui est en train de se passer sur Terre, cette élévation. Alors, je tiens à dire que tu as écrit un livre récemment qui s'appelle Les 10 clés pour développer votre être spirituel, La route de l'éveil, dans lequel tu donnes justement 10 clés très concrètes comme la méditation, la prière, l'intégrité, la connaissance, etc. Donc, on peut en parler aussi. Donc, tu donnes déjà beaucoup dans cet ouvrage. Mais au quotidien, quel peut-être principe de vie peut-on appliquer pour des personnes qui sont déjà engagées dans un chemin spirituel pour justement surfer la vague de cet éveil?
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut toujours commencer par le béaba. De toute façon, on dit toujours un corps sain dans un esprit sain, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas l'essentiel, mais c'est déjà très important d'avoir une hygiène de vie, une alimentation qui est saine. Mais je vais pas prendre. Pour moi, quand j'exerçais la médecine, je disais toujours à mes patients dans mon cabinet, il est interdit d'interdire. Voilà. Donc, il y
Mai
a aussi.
68 de la médecine.
Parce que si on prend une alimentation saine qu'on connaît bien, c'est l'alimentation méditerranéenne qui est la plus préconisée actuellement, certes, mais c'est important de la suivre, mais il est aussi important de se faire des plaisir, de faire des petits extras, de faire des repas avec les amis, d'avoir de la joie, du plaisir. Et ça, c'est très, très important. Donc, l'hygiène de vie, certes, je serai le dernier à dire que c'est pas important, supprimer les addictions, avoir de l'exercice physique, les contacts avec la nature, tout ça, c'est superbe. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe ici. Quand on veut monter son niveau vibratoire, bien sûr, le corps est important parce qu'il va, l'état de santé du corps influe sur l'esprit, inversement, mais ça va changer. Tout se passe aussi beaucoup dans notre tête. Et un des éléments déjà fondamentaux, c'est de faire le nettoyage du corps avec l'alimentation, avec le mode de vie, mais aussi faire le nettoyage de l'esprit. C'est-à-dire que c'est le béaba de commencer par nettoyer tous les vieux conflits ou les conflits récents que nous pouvons avoir. Tous les trucs qu'on n'a pas digérés, qu'on n'a pas solutionnés, il est moment de les solutionner, de les pardonner, d'oublier, etc. Parce que ça, autrement, sont des boulets qui nous maintiennent vers des vibrations basses. Et on peut mettre toutes les belles pensées qu'on met à côté, si on n'a pas solutionné ça, on est en claudique. Après ça, l'autre élément, c'est de vouloir avancer, de vouloir. C'est là, on parle de l'éveil spirituel, par exemple. C'est un grand mot. Et qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel? Ben, l'éveil spirituel commence d'une manière très très simple. C'est quand un jour ou l'autre, on se pose tous la question de savoir qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est pas du hasard? Pas du hasard, par exemple, parce que je dis souvent du hasard en plaisantant. Mais on vient faire quelque chose sur cette terre, est-ce qu'il y a quelque chose après la vie, est-ce qu'il y a un dieu ou des dieux, etc. Ça, c'est un chemin personnel et chacun, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, donc chacun doit trouver sa réponse, mais on se pose tous la question. Et là, On commence à se faire, c'est le premier pas vers l'éveil spirituel, de se poser des questions. Et souvent, je dis, il faut pas attendre d'être vieux ou d'être porte de la mort, comme je le vois souvent avec les maladies graves, etc., qui nous remettent en plein dans la vision, dans notre vision, ces problèmes. Il faut vraiment les réaliser le plus rapidement possible, répondre à ces questions, quelle qu'elle soit la réponse qu'on va donner, c'est comme je dis, mais c'est important parce que ça va conditionner notre chemin de vie. En ce sens que si nous croyons qu'il y a un Dieu ou si nous croyons qu'il n'y a rien, ça va complètement changer notre vision du monde et peut-être aussi nos comportements. Alors, un degré de plus, ce qu'il va falloir, c'est aussi penser à commencer à mettre des changer d'attitude si ce n'est pas déjà fait, c'est-à-dire commencer à mettre des pensées. Le but ultime, c'est d'être dans l'amour, évidemment, mais yes, 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 c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, et surtout pas dans tous les événements quotidiens. Donc, l'élément, c'est de commencer déjà tout simplement en étant plus dans la tolérance, dans essayant de comprendre davantage les autres, pourquoi ils ont fait ceci, ils ont fait cela, etc. Moi, je suis un tempérament, je suis un bélier à la base, et c'est vrai que quand il y avait quelque chose qui allait pas, j'avais tendance à sortir les cornes et à foncer direct là. Maintenant, je commence à poser un peu et je réfléchis un petit peu pourquoi les autres ont eu cette attitude-là, etc. Donc, on est déjà, si on laisse passer une nuit là-dessus, on est plus dans la compréhension, la tolérance, la compassion. Donc, tous ces sentiments qu'on va peu à peu mettre, et un élément qui est, à mon sens, extrêmement important, c'est le non-jugement. Le non-jugement, sortir du jugement. Sortir du jugement, parce qu'il y avait une petite phrase comme ça que j'ai lue qui disait vous ne connaissez pas ma vie, vous savez pas ce que j'ai vécu, vous savez pas ce que j'ai fait, vous savez pas la situation que je suis en train de vivre en ce moment, et pourtant vous me jugez. Et c'est vrai qu'on peut pas, hein, on ne peut pas. Voilà, c'est un changement tout doucement. Donc se poser des questions sur la vie en général, et puis tout doucement poser des actes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, ce qui nous montre, pour moi, ce qui montre qu'on est sur le bon chemin, sur la bonne route. Eh bien, tout simplement, c'est que quand on fait ça, quand on commence à développer ces sentiments, là, eh bien, c'est que nous sommes bien et que nous sommes heureux. Ça, c'est pour moi, c'est fondamental. C'est qu'à partir, c'est pour moi, je suis un petit gars peut-être basique, hein, mais je suis très simple. C'est que les choses qui me rendent bien heureux, mais dans le fond de moi-même, pas, on a le droit d'avoir les plaisirs d'aller regarder un beau film au cinéma, etc. On est bien d'accord. Ça fait partie des plaisirs. Je suis très content d'aller au restaurant avec des amis, etc. Ça, c'est un peu, ça fait partie des plaisirs. Mais ce qui me rend véritablement heureuse dans le fond de moi-même, c'est quand je développe des sentiments élevés et là je me sens bien. Et inversement, quand je suis dans la haine, dans la rancœur, dans la rancune, dans la jalousie, etc., sont des acides qui me brûlent et je suis pas heureux. Je suis malade. Donc, et pour moi, c'est très simple. Là où je suis dans le bonheur, où je suis heureux, ça me montre la route. Là où je suis malheureux, où je ne me sens pas bien, c'est que j'ai des choses à changer, à nettoyer. La vie est simple, hein?
Absolument. Et c'est vrai que je trouve que c'est pour ça que s'engager sur un chemin de développement, qu'il soit personnel ou spirituel, c'est pas uniquement adopter quelques jolies croyances, c'est un mode de vie complet, c'est un engagement de soi, c'est cultiver justement ces sentiments-là au quotidien avec les multiples opportunités que la vie nous donne de pratiquer ce non-jugement, cette compassion, ce regard tolérant envers le monde, envers nous-mêmes, etc. Et c'est vrai que c'est extraordinaire et qu'on peut plus vraiment revenir en arrière une fois qu'on a commencé à faire ce chemin.
Mais il faut être aussi tolérant vis-à-vis de soi-même, parce qu'on a
Absolument.
des vieux. Déjà, il faut vouloir développer ses sentiments. Déjà, c'est le premier point. Mais en plus, c'est évident que faire ça 24 sur 24, c'est pas toujours évident. Et quand il y a une personne qui est sur la route et qui vous fait un peu de poisson, vous allez vite fait le dire, quel con celui-là. Et donc, c'est un réflexe qu'on a. Mais justement, il faut prendre du recul à ce moment-là et de se dire, ok, moi, est-ce que j'ai jamais fait de queue de poisson à quelqu'un? Et puis peut-être que cette personne, elle est en train elle est pressée parce que il y a un membre de sa famille qui vient d'avoir un accident, ou sa femme qui est en train d'accoucher, ou que sais-je. Et donc, il est pressé, il est perdu dans ses pensées, il m'a pas vu, il n'y a pas eu d'accident, tout va bien. Donc, c'est être montré de la développer au fur et à mesure de la tolérance, de la compréhension.
Et même peut-être que s'il avait pas toutes ces excuses-là, peut-être que c'est juste son expérience du moment et aussi, il y a une forme d'humilité, je trouve, dans le fait de je ne suis pas Dieu, je ne sais pas pourquoi chacun est comme il est, et une forme de respect, je trouve, dans l'expérience de l'autre telle qu'elle est dans l'instant.
Voilà.
Qui n'est pas une justification, mais qui est une...
On peut se dire, plutôt que de là encore présenter l'autre comme étant l'agresseur et de nous présenter encore une fois comme victime, c'est plutôt de se dire, bon, pourquoi cet incident qui est un incident, qui est pas bien méchant, m'arrive à ce moment-là dans ma vie. Peut-être que, justement, il est en train de me dire, il est intéressant, il faut peut-être que tu freines, que tu ralentisses, non, bien sûr, peut-être sur la route, mais aussi dans ta vie. Il y a peut-être des choses où tu vas trop vite. Peut-être que... Donc, c'est aussi parce qu'il faut sortir aussi de ce sentiment de victime. Ça se fait tout doucement. C'est pour ça que les personnes qui sont là aujourd'hui, qui nous écoutent, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas besoin de mettre tout d'emblée en route, etc. Parce que la main c'est tellement haute, mais il faut les mettre progressivement. Et moi, je suis contre aussi l'idée des présentations qui sont quelquefois faites de séparer ce qu'on appelle les éveillés des non-éveillés. Là, moi, je trouve que c'est déjà, si un éveillé dit qu'il est éveillé et qu'il se compare au non-éveillé, c'est qu'il travaille sur l'ego. Donc déjà, il n'est plus dans l'éveil. Donc c'est déjà une erreur. Et on est tous en train d'avancer, mais chacun à son rythme. Et il y a des personnes, nous, on a peut-être avancé sur un certain plan, mais les autres ont avancé sur d'autres plans que nous n'avons pas développés, forcément. Donc, on avance tous à notre niveau, et c'est pour ça qu'il faut séparer cette idée là encore, supprimer pardon, cette idée de ce qui est encore une nouvelle séparation entre les éveillés et les non-éveillés. C'est prétentieux et je pense qu'on a, au cours de toute notre vie, même ce que nous croyons aujourd'hui, risque d'être encore largement modifié dans 10 ans.
Ça, c'est vraiment un point qui est intéressant, cette notion d'éveillé, non-éveillé, etc. Parce que quand on parle justement de l'éveil ou quand on commence à s'intéresser à la spiritualité, eh bien très vite, on parle voilà de cette question-là. Et il y a un message, et je voudrais bien avoir ton avis sur ça, un message que j'ai reçu à plusieurs reprises qui expliquait sans aucune notion de jugement, mais où on m'explique qu'il y avait, et c'était comme ça qu'était dite la phrase, il y a une grande disparité dans les niveaux de conscience actuellement sur Terre, qui n'est pas une séparation en tant que telle, mais l'expression qu'il y a une variété extrêmement importante de niveaux de conscience, de plus que de mode de vie, vraiment, j'ai envie de dire, de vibrations, de signatures énergétiques de chaque personne actuellement sur Terre, ce qui crée un mélange assez riche et incroyable, mais aussi très éclectique et parfois difficile à vivre. Alors, quel est ton regard sur cette idée que voilà, il y a aussi peut-être des personnes qui en sont à un chemin d'expérience, peut-être très lié à la matière pour l'instant, d'autres personnes qui ont un autre chemin d'expérience sur Terre qui est lié justement plus à la spiritualité, etc. Qu'en penses-tu?
Personnellement, je dirais déjà qu'il n'y a pas une variété de niveau de conscience, je dirais qu'il y a une variété de conscience. Donc ça, là aussi, ça évite justement
des classements peut-être.
Et quelque part un jugement derrière. Donc on a, et cette disparité est très intéressante parce que c'est un peu comme le mélange des populations. Moi, je trouve que on sait que toutes les sociétés qui ont mélangé avec des populations qui viennent d'un peu partout, ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus riches parce que individu apporte à ce moment-là une vision différente qui va être enrichissante pour le groupe. Et ça, c'est très important parce que même de pouvoir discuter avec des personnes qui ne sont pas avec les mêmes points de vue, avec les mêmes choses que nous, c'est un peu même simplement dans les croyances qui peuvent être religieuses, qui peuvent être philosophiques, qui peuvent être ésotériques, etc. C'est justement ça qui est enrichissant parce que nous ne détenons pas la vérité, nous détenons notre vérité qui est peut-être une petite fraction de la vérité, et les autres vont nous éclairer sur certains éléments dont on n'avait pas forcément conscience et qui vont ainsi permettre d'ouvrir de nouvelles voies, même si au départ nous étions surpris et par cette différence d'opinion, mais c'est toujours très important. Et il y avait un élément que tu avais reçu, moi j'en ai reçu un autre qui est similaire, mais qui disait « L'humanité est un livre et chaque être humain est un mot de ce livre. » Donc ça montre bien combien nous sommes tous reliés, liés, etc. Et donc c'est important de bien comprendre que justement c'est dans les échanges, dans la non-séparation justement, on va pouvoir échanger nos points de vue et qui vont nous faire grandir. Et ça c'est très très important parce que actuellement tout est fait pour nous mettre dans la peur, donc qui va développer notre ego et qui va amener toutes les séparations, les séparations entre pays, entre religion, entre sexe, entre génération, entre couleur de peau, etc. Et moi, je me rappelle quand j'avais été à Hawaï, j'avais trouvé magnifique parce que j'avais bossé sur Ho Oponopono avec les Hawaïens et il y avait un Hawaïen qui m'a dit un jour, on a beaucoup de touristes qui viennent sur ces îles, qui viennent profiter de la douceur de ces îles. Eh bien, il y a des grands, il y a des petits, il y a des foncés, il y a des clairs, il y en a qui sont de toutes les couleurs de peau. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. C'est comme une boîte de crayons de couleur avec des couleurs différentes, la taille des crayons qui sont différentes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que les personnes ont dans le cœur. C'est ça qui nous importe. Là, les apparences, on s'en fiche. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'il y a le fameux aloha, aloha, qui est pas bonjour tout simplement, c'est plutôt bonjour, je t'aime, bonjour, je te prends en considération. Et ça se rapproche un peu de ce que disait dans le film Avatar, je te vois, c'était ça.
Ouais, c'est magnifique, ouais. C'est beau de partager ça et aussi de remettre de l'unité dans ce discours, de le remettre au fondement finalement de notre chemin, de notre travail intérieur, de notre évolution spirituelle. Et une autre des clés que tu partages notamment dans ton livre, que j'ai trouvé passionnante parce que parfois pas toujours bien comprise ou pas toujours intégrée, c'est cette idée de l'intégrité sur notre chemin spirituel. Et ça, vraiment, je te remercie de l'avoir placé parce que évidemment, l'amour, la compassion, etc., sont aussi des bases extrêmement importantes. Mais l'intégrité, c'est quelque chose avec lequel je raisonne beaucoup, qui est vraiment une de mes valeurs aussi importantes de vie. Et donc, tu l'expliques comme peut-être une forme de moralité personnelle, de rectitude dans nos actions, nos paroles, nos pensées, nos choix de vie, etc. Est-ce que tu peux développer un petit peu comment cette notion d'intégrité peut nous aider dans notre évolution personnelle?
L'intégrité est très importante dans tous les domaines, je dirais, je pourrais même parler des domaines conjugaux, etc. Parce que quand on demande dans notre intégrité, ça veut dire qu'on c'est pas une rectitude rigide, hein, non plus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a le droit de modifier, changer, évoluer avec les années et le temps. On peut modifier un petit peu nos points de vue, mais c'est d'être toujours en adéquation avec notre être, avec notre cœur. Et ça, c'est important parce que dès qu'on va sortir de cette intégrité, nous allons commencer à être mal si nous faisons des actions qui ne semblent pas justes pour nous ou pour les autres. Eh bien, quelque part, On sera peut-être content d'avoir volé la place de parking à quelqu'un qui l'avait vu avant nous, mais ça ne nous satisferont pas, ça ne nous sera pas, on sera pas heureux dans le fond. On sait que c'est pas juste, que c'est pas correct, que c'est pas dans la rectitude. L'intégrité nous permet aussi de demeurer sur notre chemin. C'est à partir du moment où on écoute son cœur, on écoute son intuition, ce qui est la même chose, qu'on écoute son être intérieur, ce qui est encore la même chose, eh bien, tout simplement, on est sur notre route. Et l'inverse de l'intégrité, ce sont les compromis. Les compromis qu'on peut faire avec nous-mêmes. Oh, allez, je peux bien me permettre de faire ça, etc. Pour une fois, je vais pouvoir me le faire, me permettre de faire ce truc-là ou ce machin-là, etc. Voilà. Bon. Et puis, il y a aussi par rapport aux autres. Et moi, je vois ça au niveau des couples, par exemple. Ça, c'est assez net. C'est que, bah, évidemment, quand on se met en couple, bah, il y a un certain nombre d'accommodations à faire au niveau du couple. Mais ce qui est important, c'est que chacun des deux protagonistes, si je peux m'exprimer ainsi, les deux partenaires, doivent demeurer ce qu'ils sont. Et ça, c'est très important. D'abord, ne pas être fusionnel, surtout pas, parce que ça ne va pas durer longtemps. Et puis après ça, il y a des compromis qui peuvent être faits, qui ne nous importent pas, peu, etc. Et il y a des compromis qui nous sont importants. Par exemple, sur l'habillement, tiens, bah, écoute, ce serait bien si tu changeais ceci ou ceci là dans ton habillement. Ou tiens, ce serait bien si tu voyais plus tel ou tel de tes amis, parce que, bref, etc. Donc, si ce sont des choses qui sont secondaires et qui ne nous importe peu, ça ne pose pas de problème de changer. Mais si ce sont des choses qui nous sont importantes, à ce moment-là, et qu'on fait ça pour faire ces compromis pour faire plaisir à notre partenaire, à ce moment-là, quelque part, on sort de notre intégrité. Et sortant de notre intégrité, on ne devient plus, on est plus heureux. Et ça, c'est très important. Si c'était important de rencontrer nos amis, mes amis, et que je n'y vais pas pour faire plaisir à ma femme ou à mon mari, là, ça va grincer à un moment ou à un autre. Et là, c'est déjà le ver dans le fruit, par rapport à l'entente du couple. Donc ça, c'est vrai au niveau du couple, mais c'est vrai au niveau même du travail, même au niveau, ce qui n'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de dire non à un patron, etc. Mais dans ces cas-là, il est toujours possible de donner son opinion en étant dans le respect de l'autre. Vous me demandez de faire ceci ou cela, je pense, faut jamais porter de jugement, faut pas dire c'est nul, ça vaut rien, etc. Je pense que moi j'aurais plutôt vu faire ça comme ci ou comme ça. Donc donner son opinion sans porter de jugement, mais s'exprimer est déjà très important parce que de temps en temps on est obligé de conserver son travail, c'est une évidence, mais jusqu'à un certain point. Comme on l'a vu avec le Covid, il y a personne qui ont refusé la vaccination pour rester dans leur intégrité. Donc ça, c'est aussi à réfléchir.
Ouais, c'est intéressant ce que tu partages. Moi, je l'aurais appelé une forme d'alignement actif, hein, parce que l'alignement, c'est pas passif, c'est pas on espère que les choses s'alignent pour moi, c'est plutôt comment est-ce que je reste dans mon alignement, donc esprit, parole, cœur et terre aussi, ancrage. Et c'est vraiment une image qui me vient parfois, c'est de l'élastique où on peut tirer jusqu'à un certain point, mais le retour d'élastique fait généralement assez mal quand on s'éloigne trop de notre alignement ou de notre intégrité. Et généralement, le corps en pâtit ou bien la vie nous amène des éléments qui nous permettent de nous poser peut-être de nouveau des questions. Et ça m'amène à un autre, la suite de cette conversation sur l'éveil, sur l'intégrité, etc. Où j'avais envie qu'on parle de passer à l'action, parce que c'est aussi un ressenti que j'ai que depuis ces dernières années, mais j'ai envie de dire même peut-être ces 2 dernières années, il y a vraiment ce message qui arrive, cette invitation assez forte à, dans notre intégrité pleine, avoir des actions aussi intègres, avoir des actions du cœur et ne plus d'une certaine manière se cacher ou se protéger parce qu'on pense que le monde est peut-être trop violent ou ne nous comprend pas, etc. Mais commencer à prendre pleinement notre place en agissant. Alors, c'est pas forcément devenir Mère Teresa ou en lançant un projet faramineux, mais l'action intègre, l'action du cœur et que on est vraiment poussé dans ce sens. Est-ce que tu as ces ressentis également et quel est ton ressenti peut-être sur justement cette question de passer à l'action?
Passer à l'action. Passer à l'action, c'est quelque part aussi suivre son chemin de vie. Hein, c'est très très important parce qu'on parle souvent de mission de vie et qui peut porter à une incompréhension. La mission de vie n'est pas un but, c'est pas un métier. On n'est pas même on n'est pas là pour sauver le monde. On n'est pas là pour amener la guérison des lépreux ou trouver le meilleur traitement. Si on le fait, très bien, mais c'est pas ça l'élément essentiel. C'est un peu comme disait Lao Tzu pour le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. La mission n'est pas au bout du chemin, la mission c'est le chemin, avec toutes les expériences que nous sommes amenés à vivre et au cours de ce chemin, et dont certaines, on va les considérer comme étant des épreuves. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous les considérons comme une épreuve, mais en fait, une autre personne qui va avoir à vivre la même situation, pour elle, ce ne sera pas une épreuve. Donc, c'est à nous, encore une fois, de travailler par rapport à ça et d'évoluer, d'avancer sur ce chemin. Et là encore, ce chemin, j'ai beaucoup aimé la notion de l'élastique parce que c'est vrai pour beaucoup de choses, cette notion de l'élastique. Et ce qui montre bien qu'il n'y a pas de, il ne faut pas être rigide dans tout, dans quoi que ce soit, dans toutes nos positions. C'est-à-dire, c'est qu'il y a une ligne, je dirais, la ligne médiane. Et puis, il y a des écarts comme ça. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi au niveau de la santé. C'est-à-dire que on a des hauts et des bas, on a des fatigues, on a des périodes d'énervement. Donc, tout ça, ça reste dans un cadre, mais si on commence à sortir de ce cadre, à ce moment-là, là, on peut arriver dans le cadre de la pathologie, de la maladie, de la fatigue, de l'infection, etc. Et c'est vrai pour tout, c'est qu'il n'y a rien n'est en parler tout à l'heure, que c'était pas, on n'était pas dans un cercle avec un éternel recommencement, on parlait d'une spirale, et la spirale, on peut la considérer comme aussi, sur deux plans, comme étant une sinusoïde qui serait dans un... Mais c'est toute sortie de ça qui nous fait sortir de, dès qu'on sort de notre intégrité, on sort de ces écarts-types, comme on dit en statistique, et à ce moment-là, c'est là que on commence à être moins bien, moins heureux. Mais, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaises expériences. C'est-à-dire que toutes les expériences, quel que soit le choix que nous faisons, eh bien, il va nous faire grandir. C'est-à-dire que soit on fait le choix, le bon choix, entre guillemets, qui répond à notre cœur, etc. Donc, nous sommes bien, ok, nous sommes heureux. Mais si on fait le mauvais choix, eh bien, au bout d'un certain temps, on va comprendre qu'on s'est trompé, on va changer. Donc, ça veut dire qu'on a appris. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que la question toujours qu'on peut être amené à se poser, c'est suis-je heureux? Heureuse, suis-je heureux, heureuse. Et donc là, il y avait un petit dessin que j'avais vu sur Internet qui m'avait fait beaucoup sourire et qui est très juste. Il disait, oui, êtes-vous heureux, heureuse? Réponse, oui. Alors le conseil qu'on va vous donner, ne changez rien. Ok. Donc la réponse est non. Donc il va y avoir une question subsidiaire. Voulez-vous être heureux, heureuse? Non. Conseil, alors ne changez rien. Réponse, oui, ça veut dire qu'il y a des choses à changer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas tout à changer. C'est-à-dire, c'est qu'on peut très bien suivre sa route, suivre son chemin, en ayant un travail lucratif qui va nous permettre de payer l'appartement, les études de nos enfants, etc. Et en plus, à côté de ça, faire des actions qui vont nous mettre sur notre chemin de vie, qui vont nous répondre à notre intégrité, qui vont répondre à nos besoins de changement que tu évoquais. Nous avons aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important à mon sens, c'est que le niveau vibratoire de la Terre monte, d'accord. Donc, ça veut dire que si le niveau vibratoire de la Terre monte, le niveau vibratoire de l'équilibre de la santé de l'être humain monte également. Mais si on ne change pas, donc si imaginons qu'on soit à l'état d'équilibre à une certaine période avec le niveau vibratoire d'équilibre de l'être humain, mais le niveau vibratoire de l'être humain, le niveau vibratoire de la Terre changeant, le niveau vibratoire des êtres humains monte également. Mais si nous on change pas, en fin de compte, qui ne monte pas descend. Mmh. Ça, là aussi, il faut et Et certains disent, et moi je suis assez d'accord avec eux, que si nous sommes ainsi 8 milliards d'habitants aujourd'hui sur cette Terre, en cette période si particulière de tous les événements mondiaux d'un côté, de ce changement vibratoire de l'autre, si c'est que il y a ces 8 milliards d'individus sont venus s'incarner précisément dans cette période, parce que c'est une période de grande transformation possible. Des êtres humains et ainsi de l'humanité. Donc c'est une période, avec ces énergies qui nous arrivent, on peut suivre ce changement d'évolution spirituelle, ce cheminement personnel, ouverture de conscience, ouverture de l'esprit, d'une manière beaucoup plus rapide que ce qui aurait pu être fait dans une vie avant où on était tout le temps à 6500 unités body. Donc c'est une opportunité et beaucoup de personnes se seraient incarnées pour profiter de cette opportunité qui nous ferait gagner, entre guillemets, plusieurs incarnations et de d'épreuves ou d'expériences, etc., qui sont toujours, si on peut en faire en sauter quelques-unes, ce sera, à mon sens, pas mal.
C'est clair, je te rejoins complètement. Et puis j'ai aussi ce message régulièrement que il y a un essor incroyable sur la Terre actuellement, beaucoup d'âmes qui vraiment ont envie de venir s'incarner parce que c'est une opportunité incroyable, un vrai portail de transformation. J'ai aussi le message que c'est pour beaucoup la fin d'un grand cycle d'incarnation, non pas qu'ils arrêtent de s'incarner, mais qu'ils viennent régler beaucoup de choses qui ont duré, des modes de fonctionnement, des mémoires, des schémas qui se sont répétés dans plusieurs vies. Je trouve ça assez passionnant. Et avec cette élévation de la Terre, je ne peux m'empêcher aussi de penser, parce que j'ai l'impression d'avoir fait partie un peu du wagon, des enfants, des nouvelles vibrations, des enfants, donc avec les enfants indigo, arc-en-ciel, cristal, etc. Et j'ai l'impression que, donc moi, j'ai presque 30 ans aujourd'hui, d'avoir toujours eu cette connexion spirituelle, de me rappeler de cette envie de venir sur Terre. Et en même temps, quand j'étais petite, je savais que je venais pas vraiment de la Terre. Puis il y a eu des activations ensuite qui se sont faites, tout en naviguant cette vie aussi terrestre, très ancrée, etc. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des vagues de nouveaux enfants qui ne passent même pas par ce moment, on va dire, d'éloignement temporaire, parce que j'ai essayé de mettre tout ça de côté pendant quelques années, ça n'a pas trop marché. Et voilà, qui aujourd'hui, on sent cette accélération aussi, qu'il n'y a même plus cette phase d'oubli, de séparation temporaire, et que dès le début, il y a cette connexion. Je me souviens aussi, tu avais déjà parlé dans une autre interview, je ne sais plus où, des enfants autistes, qu'aujourd'hui, il y avait une augmentation absolument incroyable du nombre de naissances d'enfants qui font partie du spectre de l'autisme. On rappelle hein, que c'est un grand spectre et qu'il y a presque, on dit parfois, autant d'autistes que... une forme d'autisme que de personnes autistes. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Et puis toi qui as aussi été médecin, pratiqué pendant 25 ans et qui es aux premières loges pour nous expliquer un petit peu tout ça.
C'est en plus ce qui est amusant, entre guillemets, amusant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les niveaux vibratoires de la Terre ont commencé à s'élever dans les années 80 et 90. Et c'est là qu'ont commencé à apparaître véritablement les enfants indigo. Après ça, c'était les enfants arc-en-ciel. Après ça, il y a eu les enfants les cristal. Après, il y a les enfants avec des hyperactivités, avec des troubles de l'attention, avec l'autisme. Les chiffres, par exemple, au niveau de l'autisme que j'ai lu dans mes journaux médicaux, c'était il y a encore une vingtaine d'années, c'était un enfant qui naissait autiste aux États-Unis pour 1500 naissances. Aujourd'hui, ce serait pour 65 naissances. Alors, il est évident que les enfants des années 80 sont devenus des adultes, n'est-ce pas, Jenna? Et donc, pour moi, je me pose sincèrement la question de savoir si l'humanité de demain, ce sera eux, justement. Je pense que ce sera eux qui deviendront, parce que ces êtres arrivent sur Terre et ne sont pas adaptés, sont des inadaptés. Mais des inadaptés à quoi? À notre société. Et donc, ils sont quelque part déjà avec un pied dans cette nouvelle vibration qui est en train d'arriver sur la Terre. Et donc, je dirais que ces êtres ont des capacités, que ce soit spirituelles, même scientifiques, psychiques, etc., qui sont extraordinaires. Et alors, plutôt que de les traiter à grands coups de médicaments, il serait beaucoup mieux d'essayer de leur donner l'outil qui va leur permettre de développer leur talent. Et là, ça va exploser si on arrive à leur donner, parce qu'il y a un tel nombre de génies qui sont là actuellement sur la Terre et qui ne sont pas entendus et écoutés que ça fait vraiment beaucoup de peine, parce qu'on nous met toujours dans, on essaie toujours de nous bloquer dans les standards en nous faisant croire que le monde de demain va être pareil que celui d'hier. Alors que c'est impossible, impossible. Il y a obligatoirement, ne serait-ce qu'avec la pandémie, avec la guerre en Ukraine, avec le développement des BRICS, avec plein de choses, les problèmes financiers, etc. On voit que l'Europe est en train de baisser, les États-Unis flageolent, les BRICS se développent, etc. Le monde de demain sera complètement sur le plan déjà politique, mais sur le plan énergétique. Imaginez 30 secondes, parce que justement, l'arrivée de ces nouveaux enfants, entre guillemets, il y a eu en même temps l'apparition de nouveaux chakras principaux. Il y a eu l'apparition des 7 chakras principaux auparavant, il y en a 13 maintenant. Donc ça aussi, c'est un signe, à mon sens, que l'humanité est en train de développer et puis des nouvelles capacités. Et puis on a aussi une conscience qui se développe. Et ça aussi, nous ne nous en apercevons pas parce que ça se fait tout doucement. Mais on peut se dire, oui, ça se développe à cause des médias, grâce aux médias, grâce au téléphone portable, grâce à Internet, etc. Mais là, c'est confondre l'outil et la réalité, c'est-à-dire que nous avons développé notre conscience et les outils sont arrivés pour nous aider. Mais ce ne sont pas les outils qui ont fait développer notre conscience, c'est parce que nous avions notre conscience que nous avons utilisé ces outils. Et je dis souvent en plaisantant, si Internet avait existé au Moyen Âge, je ne suis pas sûr que ça aurait intéressé beaucoup de monde à cette époque-là. Donc on se rend pas compte de cette évolution d'esprit. On a un esprit planétaire aujourd'hui et là on a plus la sensation que tous les êtres humains sur cette planète ne rêvent que d'une chose, c'est de vivre en paix, de vivre en paix avec son voisin, qui qu'il soit, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, etc., d'avoir de quoi manger dans son assiette, d'avoir sa famille en bonne santé autour de soi et d'avoir un toit sur la tête. Les besoins de chacun sont très simples, en fait, hein, mais ça ne suffit pas à certains. Donc, on restera sur le certain.
Ouais, on est en tout cas tous sur notre chemin et comme tu l'as si bien dit, ce qui compte pour nous, à la fois personnellement, vivre cette élévation vibratoire de la Terre, mais aussi participer à notre humble échelle à ce grand chemin de conscience, cette grande transformation qui se passe, et de rester connecté au cœur, d'être dans cette intégrité, cet alignement avec ce qui vibre, et puis de passer à l'action, comme on le disait tout à l'heure, voilà, de manière juste et alignée, de prendre soin de soi à tous les niveaux, le non-jugement, la compassion, etc. Tu as envie d'ajouter autre chose?
Oui, tu mets le doigt sur quelque chose de très, très important, dans le sens que, bien sûr, nous sommes appelés individuellement à élever notre niveau vibratoire et ça, notre niveau de conscience. Et ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de voir complètement le monde, sortir de ce monde matériel pour voir développer enfin notre être spirituel. Ça, c'est important. Et puis, beaucoup de personnes me posent la question de savoir, oui, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider l'ensemble de l'humanité? Eh bien, pour aider l'ensemble de l'humanité, c'est la même chose. C'est-à-dire que il ne vous est demandé simplement que de faire vibrer vous, de monter votre niveau vibratoire. Et à partir du moment où vous montez votre niveau vibratoire, vous allez montrer un petit peu, entre guillemets, l'exemple. J'aime pas trop ce terme-là, mais j'en trouve pas un autre là, tout de suite.
L'inspiration, peut-être.
L'inspiration, ce sera déjà mieux, parce que l'exemple, j'aime pas. Mais donc, il va vous donner l'inspiration aux autres peut-être de faire la même chose. Et puis, notre pensée rayonne tout autour de nous. Et donc, ça va permettre aussi, en rayonnant, d'inciter les autres à faire de même. Et je voudrais ajouter quand même aussi un élément qui est très positif, c'est que sur mon site internet, il y a les graphiques avec le taux vibratoire de la Terre, mais il y a aussi un autre graphique sur lequel je voudrais insister et qui est très
Oui.
intéressant. C'est l'indice d'amour de l'humanité. Voilà, l'indice d'amour de l'humanité, c'est moi qui ai établi le barème en considérant qu'à partir du moment où on atteindra les 100%, On atteindra un nombre minimum de personnes qui vibreront sur une pensée d'amour et qui sera capable de commencer à faire changer la pensée de l'ensemble
Global.
de l'humanité. Quand j'ai commencé à mesurer ce taux vibratoire, cet indice, c'était au moment du premier confinement et il était aux alentours de 12 ou 13%. Et puis là, aujourd'hui, il est aux alentours de 1100%. Si toute l'humanité vibrait dans l'amour aujourd'hui, nous serions sur un taux de 5, 6 000, je ne me rappelle plus du taux que j'avais calculé, mais c'est dans les 5, 6, 7 000%. Donc là, ça veut dire qu'on a fait un saut déjà faramineux entre les 12% du moment du confinement et les 1100%. Et j'avais lu aussi un livre qui était très important, très intéressant, c'était 2 milliards de réenchanteurs. Et ça, c'était même avant les histoires de pandémie, de guerre en Ukraine, etc. Et l'auteur qui avait travaillé d'ailleurs qui a travaillé à l'Europe, comme fonctionnaire, enfin, comme consultant là-bas, eh bien, lui avait fait le total avant tous ces événements-là que sur la Terre, il y avait déjà 2 milliards de personnes qui rêvaient et qui étaient déjà en train de mettre en place un nouveau monde, enfin, un nouveau monde dans l'agriculture, dans l'économie, dans l'éducation, etc. Donc, il y avait les écologistes, il y avait plein de gens qui travaillaient dans les ONG, etc. Donc, il y avait plein de gens qui rêvaient, qui étaient déjà en train de construire un nouveau monde, un monde meilleur. Et donc, 2 milliards, quand ils faisaient cette somme, c'était absolument faramineux. Et comme tu le disais tout à l'heure, souvent on garde ses pensées, souvent nous. Et moi, je suis toujours très surpris quand je rencontre des personnes de voir, sans que je ne m'y attende, combien cette personne, d'apparence tout à fait habituelle, je dirais, on va dire habituelle entre guillemets, eh bien, a développé en elle une évolution spirituelle formidable. Et donc, c'est pas écrit ici. Donc, c'est vraiment, il y a un cheminement qui est fait. Mais aujourd'hui, c'est, comme tu le disais, c'est le moment aussi de mettre les choses en action, de dire les choses, mais de ne pas les imposer. Et c'est ça qui est important, de donner son opinion, de donner son point de vue. Les autres le prendront, les autres ne le prendront pas, ça n'a pas d'importance. C'est souvent, moi, c'est ce que je faisais quand j'exerçais la médecine. Autrefois, je faisais ce que j'appelle la technique des petites graines. C'est-à-dire que je passais une information sans chercher forcément la discussion tout de suite. Et puis souvent, mon patient, revenant à la consultation suivante ou plus tard, me disait, mais en fait, vous m'aviez dit ça. Et en fait, oui, j'ai réfléchi et la petite graine avait suivi son cheminement dans son esprit. C'est pour ça, faut rien forcer. Il faut toujours
Exactement.
se dire, OK, on est là aujourd'hui. Moi, je suis par exemple dans les soins énergétiques, dans les médecines naturelles, etc. Mais au début, ben, j'ai appris la faculté, la médecine conventionnelle, et il a fallu un cheminement pour que j'arrive à accepter tout ça. Et donc, les personnes qui sont toujours dans cette médecine conventionnelle, etc., je ne les critique absolument pas parce qu'ils sont sincères avec eux-mêmes. Ils n'ont pas fait le cheminement et je ne sais pas s'il y a besoin de faire le cheminement. C'est leur vie, chacun est libre par rapport à ça. Il faut être toujours tolérant et faire des petits retours en arrière un petit peu sur nous aussi.
Oui, j'aime beaucoup ce que tu partages, effectivement. Et je crois que c'est cette notion d'incarnation que j'aime bien, d'incarner sa vérité, d'incarner sa propre lumière, sans chercher à l'imposer, comme tu le dis si bien, mais simplement aussi se permettre, se donner le droit d'être soi dans ses actions, dans ses paroles, dans qui l'on est, dans son énergie, sa vibration aussi. Et je crois que c'est ça qui fera changer le monde parce que ça viendra de manière naturelle, organique, parce que lorsque chacun sera vraiment en paix avec qui il est, il inspirera ceux qui seront, qui pourront être inspirés par cette personne et ce sera juste comme ça, mais il y aura ni violence, ni personne à forcer et ça changera tout. Et puis ce que j'aime dans ce que tu partages aussi, c'est de rappeler que c'est une note qui est très optimiste parce qu'on nous donne, on nous dépeint un tableau de la société et c'est facile de ne voir que ça, qui est si noir, qui est si effrayant également. Or, dans le quotidien, dans le cœur de milliards, c'est vraiment milliards de personnes, il y a de l'amour, des rêves, une envie différente, des éveils aussi qui se passent partout dans le monde. Je le vois chaque jour et c'est extraordinaire. Donc voilà, sur cette note positive, je crois que on va terminer notre conversation ici et voilà, inspirer de rayonner qui on est, de passer à l'action, de continuer de notre chemin avec joie, légèreté et intégrité. Et oui, et on se donne rendez-vous dans un an ou deux pour faire le point sur la vibration, sur les éveils, sur les transformations de l'humanité, parce que je pense qu'il va continuer d'en avoir un paquet.
Bah oui, au rythme où ça va, ça va. Et moi, j'ai écrit un livre, il devait sortir d'ailleurs au moment de la pandémie, il a été retardé un petit peu à cause de la pandémie, donc il était écrit bien avant tous ces événements, et le titre était « La révolution de l'amour ». Et dans le sous-titre, c'est « La prochaine révolution se passera dans les cœurs et non pas dans la rue ».
Ouais, j'adore. Évidemment, je renvoie tous nos auditeurs et spectateurs à aller lire les ouvrages de Luc Baudin, à aller aussi sur son site. Il y a énormément de ressources, il y a des soins énergétiques intemporels qui sont aussi disponibles sur ta chaîne YouTube. C'est vraiment un univers qui est très riche, donc merci à toi. On mettra toutes les informations en description du podcast et en sous-titre de la vidéo. En attendant, je te dis un immense merci, Luc, pour ton temps, ton partage et ton travail. Et je te dis à bientôt.
Eh bien, le plaisir était partagé et bravo aussi pour le tien. Tu fais un travail aussi formidable de divulgation et de connaissances. Et puis, je dirais à tous, soyez heureux, portez-vous bien.
On reçoit ce message directement dans notre cœur. Merci Luc et merci à tous d'avoir été avec nous.